Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce live écho qui va être consacré cette semaine à l'alternance et l'IT dans l'alternance. Pour être très précis et pour en parler, j'ai sur mon plateau trois invités. À ma droite, tout d'abord, Alison Carrie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de l'école AFIP. À vos côtés, Laurent Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable pédagogique, toujours à l'AFIP.
Toujours à l'AFIP pour la filière informatique.
Pour être précis, vous avez raison. Et à ma gauche, donc, Benoît Gros, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte logiciel, comme on dit dans votre jargon, et maître d'apprentissage au sein d'une entreprise qui s'appelle Cosmo Consult.
Exactement.
Et vous prenez effectivement régulièrement, comme son nom l'indique, donc des apprentis. C'est bien pour ça que vous êtes là sur le plateau. Alors avant d'entamer la problématique de manière directe, évidemment, un petit mot sur vos structures respectives. Alison, donc... L'AFIP à Villeurbanne, en quelques mots, son historique et quelques chiffres clés.
Oui, donc l'AFIP, c'est un centre de formation d'apprentis qui existe depuis 1995. On accueille aujourd'hui plus de 900 étudiants, que ce soit du post-bac, donc bac plus 2, jusqu'au master. Et puis, on forme sur 6 pôles de formation. Donc, on a l'informatique, bien sûr.
Ouais.
Et puis, on a la communication aussi, commerce, management, architecture d'intérieur, études de la construction. Donc à 90%, on forme sur de l'alternance.
Sur l'alternance.
Voilà, donc on est spécialisé dans l'alternance.
Et on parlera aujourd'hui principalement de
l'alternance.
Effectivement.
Et de l'informatique, tout à fait.
Ils sont tous en alternance en IT ou pas, chez vous?
Alors en fait, on a une classe de première année qui sont en initiale,
hein,
où le but c'est de leur apporter les bases minimum pour qu'ils puissent ensuite rebondir vers un contrat d'apprentissage.
D'accord. Benoît Gros, donc vous êtes... architecte, comme on dit, logiciel chez Cosmo Consult. Cosmo Consult, en quelques mots, qu'est-ce que c'est comme entreprise ?
Cosmo Consult, en fait, c'est l'un des principaux partenaires Microsoft Dynamics 365. Mmh. On est 1400 collaborateurs dans le monde, en Europe, en Asie et en Amérique du Sud. Mmh. Nos missions, c'est surtout intégrateur, éditeur de solutions logicielles. Et forcément, expertise, consulting. Nous, on a vraiment une approche end-to-end sur,
c'est-à-dire
sur l'entièreté du processus pour nos clients, sur leur transformation numérique. Nous, c'est vraiment de les accompagner du début à la fin, en prenant aussi en compte la partie TMA, support, à la fin. Et aujourd'hui, en France, on est 60 et sur deux bureaux à Paris et à Lyon.
Et à Lyon. Très bien, merci de la présentation. Je me retourne vers vous, Alison, pour un petit peu approfondir le sujet de l'alternance. Comment vous êtes structuré, concrètement parlant, par rapport à ce défi? Parce que c'est un défi pour les gens, les jeunes qui ont 20 ans, de trouver l'alternance. Comment vous êtes structuré, concrètement parlant?
Alors, dans la structure, c'est-à-dire pour le process d'admission,
oui,
par exemple,
non, comment ils sont admis, puis comment vous les placez, comment ça se déroule?
Donc, en fait, une fois qu'ils sont admis à l'école, donc ils peuvent postuler par plusieurs biais, que ce soit Parcoursup, mais aussi sur notre site internet. Après, on les rencontre aussi lors de salons ou de journées portes ouvertes. Et puis ensuite, on a des chargés de relations entreprises, donc là, qui s'occupent de tout ce qui est prospection pour aller trouver des entreprises qui sont à même de pouvoir recruter des alternants. Et puis, on organise également des ateliers de technique et de recherche d'entreprise, donc pour leur apprendre toutes les bases, du coup, qui leur permettra de trouver une entreprise, donc que ce soit rédaction du CV, lettre de motivation. On a également des séances de coaching, donc là, on les accompagne vraiment pour trouver une entreprise. On a également des offres de postes, des entreprises partenaires. Donc du coup, ils sont vraiment accompagnés. Et puis, on a également des stages, comme on le disait avant, puisqu'il y a des profils qui sont en initial. Donc là, on a une partie stage et également, on les accompagne dans la recherche du stage qui peut potentiellement déboucher sur une alternance.
Mmh.
Donc sur des années, ensuite jusqu'au master, puisqu'on a un master en expert en informatique, en ingénierie informatique.
Et vous, Laurent, dans ce contexte-là, vous intervenez à quel niveau?
Alors moi, j'interviens quelques fois à ce niveau-là, mais en général, j'interviens plutôt un petit peu après, notamment pour les premiers rapports avec les maîtres d'apprentissage.
Ouais, d'accord. Benoît, alors vous êtes, c'est l'inverse, hein, comme on l'a compris, vous accueillez des alternants, donc de point de vue, pareil, dans votre structure, comment vous les recrutez, ces alternants?
Alors nous, on passe donc soit par des forums organisés par les écoles ou des forums plus généralistes, forums de l'apprentissage, etc. On a aussi on a beaucoup de candidatures spontanées, finalement, aussi, de personnes qui nous écrivent pour chercher des alternances, qui cherchent des entreprises dans l'informatique et qui essayent directement de nous contacter.
Et ça reste des jeunes, ceux qui vous contactent comme ça, de manière libre ?
Ça reste plutôt des jeunes. Je pense aussi qu'ils ont cette approche-là pour potentiellement pouvoir choisir des entreprises qui peuvent les intéresser, et aussi que c'est pas forcément, enfin, de ce que je vois dans les forums, etc., c'est pas toujours facile de trouver une entreprise pour les alternants. Donc ils essaient aussi, ils s'y prennent très très tôt souvent. Dès qu'ils ont l'idée de l'alternance, ils commencent déjà à chercher février-mars pour septembre. Donc là-dessus, au niveau du nombre de candidats, c'est pas vraiment un problème pour nous là-dessus.
Deuxième partie, un petit peu, si l'on peut dire, dans ce débat, comment vous placez vos alternants ? Donc, on a compris comment ils arrivent chez vous, comment après, un petit peu, comment ça peut se passer, mais comment vous les placez ? Comment ça se passe ?
Du coup, une fois qu'on a le contact avec l'entreprise, du coup, on établit une fiche de positionnement et puis l'entreprise, du coup, évalue les missions, en fait, et on évalue le besoin de l'entreprise, surtout en amont, bien sûr, quand on a le contact avec l'entreprise. C'est d'abord d'évaluer son besoin pour définir la formation adaptée. Et puis ensuite, on met en relation du coup des CV, puisqu'on a le besoin de l'entreprise. On demande bien sûr le besoin du jeune, parce que maintenant,
on y viendra un peu plus tard, mais effectivement, c'est important.
Et puis du coup, ensuite, on propose plusieurs CV à l'entreprise. Et puis ensuite, donc, c'est l'entreprise qui fait son choix pour les recevoir en entretien. Du coup, ensuite, on envoie une fiche de positionnement. Et puis, c'est nous qui faisons les contrats d'alternance. Donc, en fait, l'entreprise nous demande faire les contrats auprès des OPCO. On fait les déclarations auprès des organismes financeurs. Ensuite, le jeune intègre l'école.
Après, il n'y a plus qu'à bosser, quoi.
C'est ça.
Malgré tout, est-ce que dans l'IT, puisque c'est quand même la problématique un petit peu précise de ce débat, est-ce qu'il y a des particularités, justement, dans ce domaine en particulier ? Peut-être la question est pour vous, Laurent. Alors,
nous, il y a vraiment une chose qui est importante, c'est qu'on envoie toujours plusieurs candidats. Comme l'a dit Alison, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut à tout prix qu'il y ait quelque chose qui se passe entre le recruteur et le futur apprenti. C'est un contrat de travail qui va découler. Donc c'est vraiment important qu'on ne fait pas vraiment du placement, on fait plutôt de la mise en relation entre un candidat et une entreprise. Après, il n'y a pas forcément de grandes spécificités dans le domaine de l'IT. Bien sûr, il y a tout ce qui est côté technologique. Bien évidemment, il faut qu'ils aient
peut-être
un certain nombre de
connaissances. Peut-être que ça évolue plus vite que dans d'autres secteurs. C'est peut-être ce qu'on peut peut-être observer dans votre domaine, non ?
Oui, c'est un secteur qui évolue. Et donc forcément, les demandes... Nous, on est obligé de s'y adapter, déjà pour former nos jeunes aux technologies de demain, et puis aussi pour répondre aux besoins des entreprises.
Il y a des profils d'élèves en particulier, c'est plutôt des garçons, plutôt des filles, et on peut distinguer ça comme ça ou d'une autre façon ? Parce que parfois on dit que dans ces milieux, attire encore plus les garçons que les filles. Est-ce que c'est la palissade ou est-ce que c'est une vérité
C'est vrai. On ne peut pas dire le contraire. Ouais. Ce qui est dommage, parce que souvent, les filles qui sont dans ce domaine sont des très bons profils.
Comme toujours. Donc, il faut effectivement mettre en valeur ces métiers, parce qu'effectivement, c'est à la portée de tout le monde. Et c'est vrai que c'est important de le préciser. Au niveau du choix des entreprises, est-ce que, sans citer évidemment quiconque, mais parfois, est-ce que ça peut mal se passer et pourquoi ?
Alors, ça peut mal se passer. Notamment, on a remarqué que c'était souvent dans les 45 premiers jours, qui sont la période d'essai.
C'est ce que j'allais vous dire.
Des étudiants.
Comme dans la vie en général, finalement.
Tout à fait ça. Ouais. Donc, nous, on a mis en place avec les chargés de relations entreprise un suivi. Donc, on a 4 suivis sur les 2 ans. Ouais. Et donc, 2 suivis sur la première année. Et notamment, le plus important pour nous, c'est le suivi d'installation qui se fait du coup pendant les 3 premiers mois après le début de la formation. Et qui permet notamment d'éviter ces ruptures. Les conflits sont surtout basés sur de l'incompréhension, notamment du jeune, sur les règles de l'entreprise, qui peuvent parfois être mal perçues, mais c'est pareil partout. Donc on lui fait comprendre qu'il faut, il faut s'adapter. Et puis des fois, c'est de l'autre côté, l'entreprise aussi, qui peut potentiellement des fois négliger son côté apprentissage, c'est-à-dire que le jeune est en apprentissage et il ne peut pas être formé. C'est pas un salarié classique à temps plein, il doit être formé. Donc, on essaye d'être le médiateur du coup entre les deux parties afin d'éviter d'avoir ces ruptures.
Point important, salarié, mais salarié un peu particulier. Oui. Je pense que ça résume beaucoup de choses. Benoît, vous êtes de l'autre côté, de la chaîne. Comment vous voulez recruter vos alternants et comment ça se passe après, concrètement parlant?
Nous, on les recrute principalement par rapport à ce qu'on appelle des soft skills, entre guillemets, à leur façon de s'exprimer, à leur envie d'apprendre, à leur envie de voir des choses nouvelles. Honnêtement, nous, on ne fait pas de tests techniques à l'entrée sur les alternants, puisqu'on fait confiance à l'école, en fait. Si l'école, quand on est sur des forums école, par exemple, si l'école nous présente ces profils-là, c'est qu'ils ont le niveau, requis. Nous, on fait confiance à l'école là-dessus, et on a aussi des particularités par rapport à notre métier, où on doit vraiment apprendre techniquement ce qu'on fait. Les jeunes n'ont pas pu rencontrer nos spécificités techniques avant dans leur cursus. Donc nous, là-dessus, c'est vraiment par rapport à... C'est à vraiment ces soft skills, à ce savoir-être, entre guillemets, qu'on les recrute. Et nous, on cherche principalement des contrats assez longs, sur 3 ans, 2 ans, pour justement prendre le temps de correctement les former, de prendre le temps de leur montrer... ce qui est les particularités de notre travail et avoir le temps de justement faire ça pour derrière qu'en fait cette alternance se transforme en tremplin pour un CDI derrière.
Vous avez des alternants dans quel genre de domaine pour être précis?
Alors nous par rapport à notre... c'est plus donc dans du logiciel, donc plutôt du développeur, mais on essaie aussi de s'adapter aux alternants en poussant leurs points forts. Donc, c'est-à-dire que si on se rend compte qu'on a des profils qui sont beaucoup plus à l'aise sur vraiment de la recherche technique, aller chercher techniquement comment ça marche, des nouveautés, etc., on va plus s'orienter peut-être vers de la R&D. Si c'est des personnes qui sont plutôt à l'aise à l'oral, qui ont plutôt une certaine affinité avec la relation client, peut-être plus s'orienter vers du consulting auprès du client, etc., nous, on essaie vraiment de mettre en avant les points forts de nos alternants pour leur trouver ce qui leur convient le mieux, et aussi bien suivre ce qu'eux ont envie. On va pas forcer quelqu'un qui n'a pas envie de faire du consulting à faire du consulting non plus.
Alors vous êtes maître d'apprentissage hein, au sein de Cosmo Consult, mais il y a une particularité, c'est que vous n'êtes pas vraiment le supérieur hiérarchique.
Nous, aujourd'hui, chez Cosmo Consult, on a pris le parti de séparer le maître d'apprentissage du supérieur hiérarchique. Pourquoi ? Déjà, au niveau des maîtres d'apprentissage, on essaye de mettre des personnes qui ont connu ce que va faire l'alterne. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre quelqu'un qui est vraiment manager, on va mettre quelqu'un qui est dans la technique avec lui pour pouvoir le faire monter comme il faut. Et ensuite, le fait d'avoir cette séparation entre MAP et supérieur hiérarchique, ça permet aussi aux jeunes de plus facilement venir nous voir, nous poser des questions qu'ils ne poseraient pas forcément si c'était vraiment un supérieur hiérarchique. Donc nous, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve vraiment très intéressant là-dessus, et ça permet vraiment d'améliorer encore cette partie montée en compétences et amélioration des compétences et du savoir-être aussi et du savoir-faire des apprentis.
Tout à fait. Alison, Laurent, ça vous parle, cette façon de gérer l'apprenti?
Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas toujours ce que l'on rencontre.
Oui,
hein.
Parce que, voilà,
dans la majorité des cas, on va avoir le supérieur hiérarchique qui va être le maître d'apprentissage pour le jeune. Mais c'est vrai que c'est vraiment une très bonne formule. Ça permet de l'épauler au quotidien et d'enlever cette relation hiérarchique et...
qui peut être une barrière, j'imagine.
Ouais,
Quand on est jeune, quand on commence à travailler, ça enlève sûrement psychologiquement tout une arrière-boutique qui peut être sûrement un frein. Il peut y avoir aussi, j'imagine, d'autres freins, parce que c'est un peu la question qu'on peut se poser après. Là, on a parlé de vos attentes respectives, de la structure que vous avez, les uns et les autres, mais il y a aussi les attentes aujourd'hui des candidats. Alison, ouais. Bon, le sens au travail, le Covid est passé par là, la société a changé.
C'est ça.
Le jeune de 20 ans en 2024, c'est pas moi. Voilà, j'ai plus 20 ans, j'imagine. Donc ouais. Comment ça se déroule concrètement parlant?
Alors, on a remarqué qu'il y avait des profils qui étaient beaucoup plus exigeants, notamment sur tout ce qui est bien-être au travail, mais également que le poste, ils devaient trouver du sens justement à leur travail. Et puis ils ont du mal à se lancer dans le monde du travail des fois après leur formation. Il y en a qui sont, qu'ils ont une certaine maturité. Donc, mais c'est vrai que ça a été compliqué après le Covid de reprendre du coup ce train-train en disant il faut se lever pour aller au travail.
Il n'y a plus de visio là.
Il n'y a plus de visio.
Plus de visio, c'est terminé.
Donc du coup, c'est ce qui nous a donné là pendant 2 ans. On a eu beaucoup de ruptures, notamment de contrats, du fait que il y avait des incompréhensions entre les entreprises et les étudiants qui avaient passé 2 ans en visio, en cours. Mmh.
Et ça chope sur quoi? C'est sur le sens, c'est sur le rythme de travail, c'est sur les exigences, sur le management. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, justement, ça peut encore coincer?
Je pense qu'il y a du management, mais il y a également des jeunes qui ne comprennent pas, on va dire, les exigences des employeurs. Mmh. Dans le sens où, oui, il y a des horaires, mais je ne comprends pas pourquoi il y a des horaires. Je dois venir à l'heure, je ne dois pas être absent, je dois justifier mes
Je ne bois pas 15 cafés dans la journée.
C'est ça, je ne peux pas partir du travail comme ça sans demander à mon employeur. Enfin, il y a toutes ces règles-là à travers lesquels du coup ils n'ont pas pu avoir ces règles pendant 2 ans parce qu'ils étaient à la maison au lycée, donc il faut les reformer, les former sur
ce genre de points.
Ce genre de points.
Vous confirmez, Benoît, ce type de choses? Comment vous les accompagnez justement dans leurs demandes à ces jeunes?
Alors, nous, vis-à-vis des problèmes d'horaire, etc., on n'a pas eu vraiment de problème. Par contre, oui, il y a vraiment une demande de sens. Beaucoup de choses au niveau de la RSE, donc le bien-être au travail, le respect sur l'écologie, ce genre de choses-là, de plus en plus présents. Et nous aussi, on a eu des demandes par rapport aux clients avec qui on travaille aussi, pour travailler avec des personnes qui sont dans de l'éthique, qui sont plutôt éthiques ou ce genre de choses-là. C'est quelque chose qui s'intéresse vraiment de pour qui ils travaillent et qu'est-ce que ça va donner derrière au niveau des clients et au niveau du management aussi et ce genre de choses-là.
La question que je peux vous poser à tous, c'est quand on dit éthique ou bien-être au travail, parce que ça, c'est des grandes pensées, mais concrètement, ça se concrétise par quel genre de demande, en fait? Le bien-être au travail, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est une plante verte, c'est un canapé, c'est des horaires aménageables, c'est une éthique, c'est l'écologie, c'est le transport, c'est qu'est-ce que c'est concrètement parlant?
Moi, je pense qu'en fait, c'est qu'ils ont envie d'être écoutés, en fait, et qu'on comprenne quels sont leurs besoins et leurs envies, et qu'on essaye, dans la mesure du possible, bien sûr, mais de coller à leurs envies. C'est-à-dire que ça peut être, moi j'ai besoin ce jour-là de finir plus tôt parce que j'ai des contraintes personnelles, mais je peux reprendre le travail après. J'ai besoin d'avoir une journée de télétravail, parce que le but c'est ça en fait. C'est vraiment qu'on soit plus centré sur l'aspect humain du travail que vraiment sur l'aspect restitution de travail dur. Et aussi, on a vraiment cet aspect écologique, nous, qui rentre vraiment en compte sur les demandes. Que les profils voient qu'on essaie de faire quelque chose au niveau du changement climatique et de ce genre de choses-là.
Alors c'est un peu, si je puis dire, le début de la troisième et dernière partie finalement de ce live éco. Les tendances pour demain dans vos secteurs d'activité, comment vous l'imaginez, comment ça va progresser, comment ça va évoluer?
Alors, Laurent, justement, par exemple, tout ce qui est développement durable, hein, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Tout ce qui est la Green IT. Hein. Nous, par exemple, nos derniers masters, ils avaient tous des sujets qui étaient autour de ça. Par exemple, le réchauffement climatique et le cloud computing. Voilà, on fait une étude là-dessus. On regarde les solutions qui existent déjà. Qu'est-ce que l'on pourrait mettre en place? Donc, on les fait travailler là-dessus. Et c'est certainement des choses qui vont être de plus en plus intégrées dans les entreprises.
Et dans l'IT en particulier, c'est vraiment le bon moyen pour trouver un job, à votre avis, dans les années futures? Parce que ça a longtemps été quelque chose de sous-évalué, etc. Aujourd'hui, c'est en pleine lumière. Est-ce que ça va se confirmer, selon vous, Alison, ce phénomène, notamment dans l'IT?
Oui, là, c'est en pleine expansion, aussi avec l'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus.
J'allais vous en parler.
Voilà, donc, ouais. Du coup, forcément, on a de plus en plus de demandes de la part d'étudiants, mais aussi de la part d'entreprises qui souhaitent se développer sur ce sujet-là. Donc, oui, je pense que c'est un secteur en pleine expansion.
Et ça va vous obliger aussi à continuer de travailler, faire évoluer programmes. Les programmes, etc.
Ça, c'est en permanence.
Mais peut-être que ça va plus vite qu'avant, non? Enfin, Benoît, vous êtes aussi d'autre côté, mais j'imagine que vos métiers avancent tellement rapidement. Alison parlait de l'intelligence artificielle. J'imagine que vous êtes dedans, quoi.
Oui, forcément, l'évolution technologique implique des choses au niveau de notre métier. Mais nous, au sein de l'entreprise, on essaye de se tenir au courant, de suivre les évolutions. Et aussi le fait de prendre des profils jeunes qui sont justement très sensibilisés à ça et on leur fait vraiment travailler là-dessus, c'est un point fort pour nous aussi. Nous, on peut aussi capitaliser sur ces connaissances qu'on n'a pas forcément eues, nous, pendant notre vie professionnelle.
Bien sûr.
Et avant, pour justement utiliser ce qui a été transmis à ces jeunes au sein de l'école, où ils sont quand même assez aussi dans les nouvelles technologies et ce genre de choses-là, pour capitaliser dessus, pour eux les mettre en avant aussi, et nous pouvoir profiter de ces connaissances.
On a changé d'image, effectivement, par rapport à l'alternance. Est-ce que aussi l'État peut faire encore un peu plus, peut-être, sur les contrats, aller un peu plus loin dans la démarche? Vous pensez qu'il y a des choses encore qu'on peut encore faire progresser?
Alors là, pour l'instant, je pense que l'État a donné beaucoup, notamment au niveau des aides
bien
qui continuent jusqu'à la fin du quinquennat de Macron. Mais oui, il faut savoir que là, on est passé en 2023 à plus d'un million d'apprentis. Donc ça y est, on a sauté la barre des 1 million que voulait Emmanuel Macron. Donc je pense que oui, je pense qu'on va continuer à développer ce secteur de l'alternance qui est prometteur et qui maintenant, du coup, attire autant les entreprises que les jeunes, quoi. Du coup, c'est un secteur...
Comme on dit, c'est gagnant-gagnant, quoi.
Gagnant-gagnant pour tout le monde.
Pour tout le monde.
Tout à fait.
La preuve, ça sera quasiment le mot de la fin. Alison, vous avez un job dating le 17 avril. Là.
Tout à fait, le 17 avril au sein de l'école AFIP Formation, au 40 rue des Antonins. Donc on est dans le secteur de la Doie vers les universités.
À Villeurbanne.
Sur Villeurbanne. Tout à fait.
De quelle heure à quelle heure?
Alors c'est
des
créneaux horaires, c'est grosso modo 9h-17h, 9h-17h. Mais les entreprises ne sont pas obligées de rester de 9h à 17h.
Bien sûr.
Donc on a des créneaux horaires de 2h, ce qui permet aux entreprises de voir les alternants, les étudiants.
C'est spécialisé dans l'IT ou c'est plus...
De tous nos pôles, d'accord. C'est ça, les tout pôles. À fait. Les 6 pôles de formation.
Inscription obligatoire?
Inscription, oui, des entreprises sur la base d'un formulaire, tout à fait.
Le message est passé.
Merci
Alison, merci Laurent, merci Benoît.
Merci
d'être venu jusqu'à notre studio pour parler donc de cette thématique de l'alternance dans l'IT. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un prochain live. D'ici là, passez une très bonne fin de journée à l'écoute de Lyon Entreprise. À bientôt.